Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque les nounous d'enfer. Ces nounous qui ont marqué l'histoire en outrepassant leur fonction de nounou pour le meilleur. Mais aussi, hélas, Mathieu, pour le pire. Comme vous nous le racontez à présent, avec la terrifiante histoire d'une nounou nommée Yoselyn Ortega.
Oui Stéphane, avis aux radins qui nous écouteraient cet après-midi. Dans la vie, vous pouvez rogner sur les pourboires au serveur, sur les étrennes à la gardienne, mais jamais, jamais, au grand jamais, vous ne devez essayer de faire des économies de bout de chandelle sur la nounou. Bien sûr, en ces temps compliqués, où les crèches et les écoles sont fermées, où le télétravail est une nécessité, se retrouver sous le même toit que ses enfants en permanence est une source de stress. Que faire ? Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Soit nier complètement le fait que vous avez des enfants et les laisser se développer seuls dans une pièce dédiée de votre appartement devant les aventures de Peppa Pig en journée et le soir pour les faire pioncer les foot devant un replay de notre émission, idéalement un récit de Stéphane Bern qui, selon une étude de l'INSV, l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance, serait 75% plus efficace qu'un complément alimentaire à base de mélatonine pour s'endormir. La preuve d'ailleurs, il s'endort lui-même.
Oh non, je suis fatigué, moi. Je veux dormir.
Soit
c'est bien, hein,
et c'est l'option la plus prisée des gens aisés, vous pouvez faire appel à une nounou. Encore faut-il bien tomber, car en matière de nounou, il y a Mary Poppins et puis il y a Yoselyn Ortega. Le résultat ne sera pas du tout le même pour vos enfants, tant en matière de développement personnel que même plus prosaïquement de survie. Un couple de riches New-Yorkais en a fait la mère expérience en 2012. Alors, qui c'est qui a trop chipoté sur le salaire horaire de la nounou? Qui c'est les fiefés coquinous qui n'ont pas voulu déclarer sur page emploi et qui se disaient qu'au black c'était mieux? Je vous présente les Krim. Alors déjà, vous me direz, avec un nom pareil, ils l'ont un peu cherché. Kevin et Marina Krim forment un couple de rêve. Le genre de couple qu'aurait pu former David et Constance, si David avait gagné 25 000 dollars par mois et si Constance avait été diplômée d'Harvard. Les Krim se marient en 2003 et donnent naissance à trois merveilleux enfants. Les riches donnent toujours naissance à des merveilleux enfants. Lulu, Nessie et Léo. Ils vivent d'abord à Los Angeles avant de déménager à New York, où Kevin vient de décrocher un prestigieux job dans la chaîne CNBC. C'est un peu comme TF1 avec plus de moyens. Ils optent pour un appartement dans le building historique La Rochelle. Datant de la fin du 19e, ce bâtiment chic de 11 étages se trouve dans l'Upper West Side. Ils sont à 500 mètres de Central Park. On adore le quartier. On est un peu jaloux. D'ailleurs, les copines de Marina lui disent « You're so amazing !» Mais en fait, elles pensent toutes
« Salope !»
Et c'est vrai. C'est vrai que les crimes ont la belle vie. Dans cet immeuble de Manhattan, les loyers oscillent entre 3 000 et 18 000 dollars par mois. On est sur une famille hyper privilégiée. Alors, est-ce que ça compense un peu d'une manière quelconque ce qui arrive après? Non. C'est très vite, vous allez voir, même si Marina est maman au foyer, Kevin étant toujours en voyage d'affaires, les crimes ressentent le besoin de faire appel à une nounou pour les soulager. Et ça, Yoselyn Ortega entendra le message 5 sur 5, il y aura beaucoup moins de cris à la maison. Alors que les crimes recherchent la perle rare, le destin met sur le chemin de Marina une certaine Celia Ortega qu'elle croise au cours de ballet de Lulu, car évidemment Lulu fait du ballet. Marina est alors enceinte de Léo. Celia lui explique qu'elle travaille comme nounou pour une famille qui vit dans le même quartier qu'eux et, désignant le ventre de Marina, lui explique qu'elle connaît quelqu'un de formidable qui pourrait l'aider à garder ses enfants. Il s'agit de sa sœur, Yoselyn Ortega. Oh, la belle idée! Très peu de temps après cette rencontre, les crimes reçoivent une lettre de recommandation détaillée pour Yoselyn de la part de sa nièce, Jackie Severino Vargas. La lettre provient d'une adresse email professionnelle tout à fait légitime. Jackie dresse un portrait élogieux de Yoselyn, mettant en avant ses engagements précédents, son expérience sérieuse avec les enfants. Tout semble parfait pour les crimes qui, malheureusement, découvriront bien plus tard que tout était absolument bidon. Jackie Vargas n'a pas d'enfant et a tout inventé afin de faire embaucher sa tante Yoselyn. Sans savoir qu'on leur ment, Marina et Kevin embauchent la fameuse Yoselyn. Mais qui est-elle, cette Yoselyn Ortega?
C'est une pute.
Non Stéphane, c'est une femme originaire de République Dominicaine. Naturalisée américaine depuis 8 ans, au moment où les crimes l'engagent, elle a 48 ans, pas de casier judiciaire, elle a été mariée, elle a un fils, Jésus, qu'elle a confié à l'une de ses sœurs en République Dominicaine. Yoselyn essaye de lui rendre visite au moins 3 ou 4 fois par an et l'appelle tous les jours. À l'été 2012, soit au moment où Yoselyn entre au service des crimes, son fils emménage à New York pour y faire ses études. La perspective de veiller sur lui et de devoir l'assumer financièrement décuple l'anxiété et le stress de Yoselyn Ortega. Au loyer et aux factures viennent donc s'ajouter les frais de scolarité. Yoselyn peine à joindre les deux bouts. Ça va commencer à se gâter, je vous connais, vous êtes là pour ça, hein, pour le sale, le sanglant, le sensationnel. Je sais à quel point le bonheur vous ennuie, on y vient. Après 2 ans au service des crimes, le travail et l'implication de Yoselyn laissent un peu à désirer, au point que le couple lui fait savoir qu'ils n'hésiteront pas à la remplacer si elle ne se reprend pas. Elle leur avoue connaître des problèmes d'argent depuis que son fils est là. Marina lui propose alors de faire un extra de ménage 5 heures par semaine pour gagner un peu plus. Mais l'offre vexe Yoslin. Je ne suis pas une femme de ménage, je suis une nounou. Soy un nounou enculados, esquinte. Oh, c'est moi qui imagine. Le 22 octobre 2012, dans un accès de lucidité, Yoslin consulte un psychologue. Elle lui parle de ses angoisses, de son stress permanent, de son sentiment d'échec en tant que maman. Mais elle n'évoque pas les voix qu'elle entend, dont celle du diable. On en est là. Yoslin a beau prier le Seigneur pour chasser la voix du diable, ce dernier lui susurre à l'oreille.
Il n'existe pas d'antidote.
Le psy ne décèle rien de vraiment inquiétant, mais lui propose néanmoins de poursuivre le dialogue et de prendre un autre rendez-vous, une prochaine séance, ce qu'elle ne fera, hélas, jamais. Alors évidemment, on apprend tout ça au moment de l'enquête. À l'époque, aucun signe avant-coureur ne laisse présager le drame, la folie meurtrière dans laquelle va basculer Yoslin Ortega. Alors oui, certaines de ses collègues nounous qu'elle côtoyait au parc la trouvaient étrange, asociale. L'une d'elles témoignera plus tard. Elle était bizarre, même lorsqu'elle chantait des berceuses aux enfants, elle était bizarre. Je n'aime pas dire du mal des gens, mais force est de reconnaître qu'effectivement...
frère Jacques,
elle était bizarre, sa voix déjà. Trois jours après la séance de psy, le jeudi 25 octobre 2012, la journée se déroule comme toutes les autres. Marina a demandé à Yoslin d'arriver à l'appartement à 15h pour s'occuper de Léo, puis de le mettre dans la poussette pour aller récupérer Lulu à la maternelle et de l'emmener à son cours de ballet avant de rentrer avec Léo pour qu'il fasse une sieste. Pendant ce temps, Marina est à la piscine avec Nessie. Yoslin suit les directives de Marina, elle récupère Léo à l'appartement, ils vont chercher Lulu à l'école, mais au lieu de se diriger vers le cours de ballet, elle ramène les deux enfants à l'appartement. Arrivée à la danse, Marina et Nessie ne trouvent pas Lulu. Marina envoie plusieurs SMS à Yoslin qui ne répond pas, ce qui est très inhabituel. Quelque chose ne va pas, Marina le sait, elle se précipite chez elle. Marina entre dans l'appartement, les lumières sont éteintes, aucun bruit. Elle se dit
« C'est trop calme, j'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop, plus moins calme. »
Oui. C'est beaucoup trop calme. Elle ne voit personne, mais repère la poussette et les affaires de danse de Lulu. Elle ressort, questionne le portier. Il lui répond que Yoslin n'est pas ressortie de l'appartement depuis qu'il l'a vu revenir, plus tôt dans la journée avec les enfants. Marina retourne chez elle et se dirige vers les pièces du fond. Elle remarque alors, derrière la porte close de la salle de bain, que la lumière est allumée. Elle ouvre la porte, portant toujours Nessie dans ses bras. Et là, Stéphane, elle découvre... l'inimaginable.
C'était André Dassary ?
Non, Stéphane, c'était ses enfants. Pourquoi
vous jugez les sons qui n'ont rien à voir ?
Et Léo. Pour essayer d'adoucir l'horreur, Lulu et Léo gisant dans la baignoire, tout habillés, trempés de sang et terriblement immobiles. Ah ben, Marina sait que ses enfants sont morts. Le choc est tel qu'elle remarque à peine Yoslin qui se tient debout dans le coin de la salle de bain, fixant les yeux exorbités, les poignets en sang, la mère de famille, un large couteau de cuisine à la main. Au moment où leurs regards se croisent, Yoslin s'enfonce le couteau dans la gorge à plusieurs reprises. Marina s'enfuit en hurlant « Ma babysitter a tué mes enfants ». Ça va, personne ne s'est évanoui, Pouls, David, tenez le choc. Pas d'enfant, donc vous en foutez, vous n'avez pas de cœur non plus. Donc oui, la diabolique Yoslin Ortega a bel et bien buté les gosses. En revanche, la police constatera qu'elle n'a pas touché aux bijoux.
Ouf, plus de peur que de mal.
Ah non, mais...
Ouais, vous n'avez pas d'enfant, vous non plus,
mais
visiblement.
Mais non, mais c'est pas ça. Vous avez dit ça, mais vous êtes vraiment pervers.
Vous êtes, mais vraiment. Le couple vit l'horreur absolue, l'indicible. Quant à la sympathique Yoslin, elle s'en sortira, elle s'est ratée. Et ses premiers mots ne seront pas pour s'excuser, mais pour se plaindre de la manière dont les crimes l'a traitée. Notamment toujours cette histoire des 5 heures de ménage en plus qu'il lui avait proposé et qu'elle avait toujours, si j'ose dire, en travers de la gorge. Le procès ne s'ouvrira que 5 ans plus tard. Les avocats d'Yoslin plaident la démence, l'irresponsabilité. Ils expliquent que, durant les semaines précédant les meurtres, le diable avait pénétré son corps et lui avait dit quoi faire et qu'elle n'a plus aucun souvenir de ce qui s'est passé dans la salle de bain. Ça passe crème aux yeux des juges et Yoslin est acquittée. Elle vit aujourd'hui des jours tranquilles à Touloum avec son fils. Évidemment que non. Les procureurs ont affirmé que Yoslin Ortega était en colère à cause de sa charge de travail et de son emploi du temps et qu'elle a tué les enfants pour nuire à leur mère, par jalousie aussi. Ils ont déclaré qu'elle en voulait à Marina d'avoir pu offrir à ses enfants ce qu'elle ne pouvait pas donner, elle, à son propre fils. Elle sera condamnée à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Au dernier jour du procès, elle adressera enfin un pardon aux parents. Eux, en revanche, resteront, je dirais plutôt, assez mitigés vis-à-vis de leur expérience avec cette nounou. C'est Kevin qui en parle le mieux, je cite « L'accusé est une narcissique maléfique et dangereuse, sa vie est un échec total. Il est juste qu'elle pourrisse et meure dans une cage de béton et de métal et qu'elle passe de la haine que le monde entier ressent pour elle à l'oubli total de ce même monde avant de mourir. » Voilà donc la morale de l'histoire, je crois qu'elle est double. 1. Toujours bien vérifier le CV au moment de choisir la nounou de vos enfants, même si elle est recommandée. Puis 2. Bien traiter sa nounou. Plus jamais, en tout cas, amis parents, vous ne prendrez votre nounou dominicaine ou, comme Stéphane, votre dog-sitter portoricain de haut en lui répondant alors qu'il vous redemande une augmentation pour la 15e fois d'affilée.
Non, j'ai pas le temps. Non. Mais j'ai pas le temps. No tengo tiempo.
Mais vous n'avez pas envie de retrouver Dasha et Mirza dans la baignoire, Stéphane. Alors ne négligez pas le petit personnel. Non negligado al pequeño por personalo. C'est une immersion dans la culture hispanique.
Vous arrivez à nous faire rire avec une histoire épouvantable.
Cette histoire est horrible, elle a inspiré, je le disais tout à l'heure, Chanson douce, le livre qui a valu le Goncourt à Leïla Slimani.
Oui, merci Mathieu.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.